Alors, je vais vous, merci beaucoup, vous demander de tourner dans l'Évangile de Jean, chapitre 2. Et ce matin, on va regarder de plus près les versets 1 à 11. Jean 2, 1 à 11. Ça vous tente-tu d'aller au nord, ça, madame?
Oui.
Linda prépare des... Linda et Sylvain préparent des noces. Et c'est toujours un événement joyeux, hein? Aller aux noces, je pense, en tout cas, il n'y a pas personne qui n'aime pas aller aux noces, hein? Et ce matin, dans le passage que je veux regarder avec vous, je vais lire les versets 1 à 11. Alors, trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'y est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Seigneur Dieu, Père éternel, ce matin, devant le texte que je viens de lire, Père, il y a certainement des choses que tu veux nous enseigner. Et ce matin, Seigneur, puisses-tu ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs, Seigneur Dieu, à ce que tu veux nous enseigner ce matin. Qu'on soit réceptif, même si parfois les choses que tu nous enseignes ne font pas tout le temps notre affaire, Seigneur. Apprends-nous à obéir. Apprends-nous à être obéissants, Seigneur Dieu, à tes commandements, à ce que tu nous enseignes. Et aussi, Père, qu'on puisse être bénis, contents, joyeux lorsque nous sortirons d'ici ce matin, et qu'on puisse, durant la semaine, encore méditer et regarder tous tes bienfaits, Seigneur Dieu, que tu nous enseignes dans ta parole. Alors, bénis chacun de nous ce matin, et Père, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas personnellement ici ce matin, qu'ils puissent avoir un cœur ouvert et qu'ils puissent te recevoir, recevoir ta grâce, recevoir ton pardon et de jouir, Seigneur Dieu, de la vie éternelle. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Alors, on est au troisième jour. Non, ça marche. Troisième jour du séjour du Seigneur Jésus en Galilée, là où il se rendit. Hein? C'est Jean 1,43 qui nous dit ça. Hein? Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Et il lui dit, « Suis-moi. » Ça, on a vu ça au verset 43 du chapitre 1. Donc, on est dans cette troisième journée. On ne sait pas exactement où se situait Cana, mais d'après le verset 12 du chapitre 2, cette ville-là se trouvait sur les hauteurs près de Capharnaüm. Alors, si vous voulez juste regarder le verset 12, c'est-à-dire, Après cela, il descendit à Capharnaüm. Donc, c'était supposé que Cana était dans les hauteurs. L'évangile du Fils de Dieu, c'est aussi un évangile ou l'évangile de l'amour. On parle souvent de l'apôtre Jean comme étant le disciple de l'amour, parce que Jean parle beaucoup dans l'évangile, dans ses évangiles et dans son évangile et dans ses trois épîtres, parle beaucoup de l'amour. Donc, Jésus, après ce premier miracle-là qu'il fit à Cana, on peut dire qu'il a apporté la joie à ce mariage. Il manquait de vin, imaginez-vous, puis Jésus amène du vin. Bien, il amène du vin. Il fait un miracle et puis transforme l'eau en vin. Puis cette joie-là, on peut dire qu'elle n'aurait pas eu lieu s'il aurait manqué de vin. Ce troisième jour-là aussi a une valeur symbolique pour Israël. C'est le jour où Israël retrouvera la pleine bénédiction quand il dira, et là je vous demande de tourner dans le petit livre de Osée. OK? C'est bon d'aller voir parce que, évidemment, ce n'est pas des livres qu'on lit souvent, mais ce sont des passages qui sont importants. Donc, comme je vous ai dit, ce troisième jour-là a une valeur symbolique. C'est un symbole. Osée, chapitre 6, verset 1, nous dit, « Venez, retournons à l'Éternel. » Ça, c'est Israël. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera, c'est-à-dire, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc, ce passage-là, je vous dis qu'il y a une valeur symbolique pour Israël, mais entre moi et vous, là, il y a une valeur symbolique pour nous autres aussi. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur est venu faire? Il est venu nous sauver. Il est venu panser nos plaies. Et tout ça par grâce. Par son amour. On revient au mariage. On voit que la mère de Jésus est là. Et on remarque aussi que Marie est présentée comme étant la mère de Jésus. Non pas juste comme Marie. Le Sauveur, on pourrait dire qu'à ce moment-là, il n'était pas encore célèbre. Hein, il avait pas, il commençait sa vie publique. Et en réalité, il n'était que le fils de la Vierge Marie. Mais Marie, elle, était un peu plus connue. Il y a des gens qui savaient que elle avait enfanté un enfant spécial. Et cet enfant-là, c'est lui qui allait devenir notre salut. Donc, l'Écriture, la parole de Dieu, accorde toujours une place prééminente à Christ et non à Marie. Et là, je m'adresse peut-être à des gens qui ont fréquenté pendant plusieurs années l'Église romaine. Juste pour dire que Marie, c'est une femme qui a eu tout un privilège, soit celui de porter l'enfant Jésus. Mais après cela, elle a vécu aussi, elle l'a, en parenthèse, élevée. Mais après cela, Marie devient simplement Marie, comme Joanne, comme Louise, comme Michel, comme Guy, comme... En tout cas, vous savez, elle devient une femme ordinaire. Jésus, en haut de la croix, dit à Jean, justement, celui qui a écrit cet évangile, « Voici ta mère. » Pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas que Marie demeure seule. Et il n'y avait plus de lien entre, dans le sens spirituel, entre Marie et Jésus. Et il ne faut pas non plus lui accorder une place, soit celle qu'on presque on adore Marie, qu'elle est la mère de Dieu. Vous savez, ce n'est pas du tout ça que les Écritures nous enseignent. Marie, c'est une femme qui a eu un grand privilège. Et ça s'arrête là. Au verset 2, on peut voir que Jésus est invité à ces noces-là avec ses disciples. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, parce que ce n'est pas précisé dans les Écritures, mais je pense qu'inviter Christ à ce mariage-là, c'était une sage décision de la part de Marie. Est-ce que Jésus était parent? Est-ce que Jésus était cousin? Quoi que ce soit, on ne le sait pas. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est la même chose aujourd'hui, et vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Lorsqu'on marie des gens aujourd'hui, si ces gens-là sont des croyants, des gens nés de nouveau, des croyants authentiques, des croyants consacrés, résolus à faire de leur foyer un endroit où le Seigneur se plaira, c'est une sage décision d'ajouter le Seigneur dans notre vie de couple. Si le Seigneur n'est pas là, non. Ça peut aller bien pour une secousse. Mais je suis pas mal certain que ça peut aller mal aussi. Quel a été le premier signe de ce miracle-là? Et là, au verset 3, on peut lire que le vin se met à manquer. Imaginez-vous, mariage, plus de vin. Quand la mère de Jésus s'en rend compte, elle en fait part à Jésus. Et Marie, elle savait que Jésus était capable d'accomplir un miracle pour fournir du vin. Et dans ce qu'elle dit, peut-être qu'elle voulait que Jésus se révèle lui-même aux invités comme étant le Fils de Dieu. Et dans l'Écriture, le vin, c'est souvent le symbole de la joie. Quand Marie dit « ils n'ont plus de vin », elle donne une description très exacte, je devrais dire, des hommes et des femmes qui n'ont jamais été sauvés. Là, vous allez dire, ouais, où est-ce que tu t'en vas? On peut dire que les incroyants n'ont pas de plaisir, de joie réelle et durable sans les choses du monde. C'est à ça que je veux faire référence. C'est bon boire un bon vin. Il n'y a absolument rien de mal à boire un bon vin. Mais si ça prend ça pour mettre de la joie dans ta soirée ou quoi que ce soit, peu importe, dans le mariage. Vous savez, des fois, je regarde des émissions, puis quelqu'un qui ne boit pas de vin, qui ne boit pas d'alcool, il a regardé avec des yeux gros de même, il dit « Wow, quelle sorte de bébite que c'est! » Non! Il a décidé qu'il n'en prendrait pas. Il a le droit. Puis l'autre personne qui a décidé d'en prendre, elle a le droit. Sauf que faut pas que ça dépende de la joie que j'ai d'être là. Et c'est la même chose, comme je l'ai dit, les gens du monde ont aucune joie réelle sans ces artifices-là qui viennent s'ajouter à leur vie. Au verset 4, la réponse du Seigneur a pu sembler froide et même distante. Hein? Puis moi-même, quand j'ai lu ce passage-là pour la première fois, je me suis dit, il est donc un bête. Cependant, c'est pas une réponse, c'est pas un reproche, c'est pas ce qu'on pense. Le mot « femme », c'était un mot qui était utilisé avec un sens respectueux. Comme si on disait aujourd'hui « madame ». Donc, faut pas s'offusquer, puis je vois nos jeunes qui sont ici ce matin, puis soyons pas choqués lorsqu'on voit ce que... Jésus prend pas un air hautain devant sa mère. Il est très respectueux. Et c'est comme s'il dirait « madame ». Et quand le Seigneur demande en disant « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? » Il veut simplement lui faire comprendre que dans l'exercice de sa mission divine, parce que Jésus a une mission divine, il n'était pas tenu d'obéir à des directives qui venaient de sa mère, mais qu'il agissait entièrement, complètement, d'après la volonté de son Père céleste. Jésus agissait selon ce que son Papa du ciel, son Papa lui disait. Il n'y avait pas d'ordre à prendre de Marie, malgré que Marie ne voulait pas lui donner un ordre, parce que vous allez voir qu'est-ce qu'elle dit après ça. Certainement que Marie voulait peut-être que la gloire de Dieu éclate, mais Jésus se devait de lui rappeler que son heure n'était pas encore venue. Et Jésus, avant de naître dans ce monde-là, comme étant le Christ victorieux, fallait premièrement qu'il offre sa vie en sacrifice parfait sur la croix du calvaire. Un commentateur, que j'aimerais vous lire juste deux petits paragraphes, s'appelle Williams, dit ceci. L'expression « Qu'y a-t-il entre moi et toi » se retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Elle signifie « Qu'avons-nous en commun? » Qu'est-ce qu'on a en commun? Et la réponse, c'est, entre Jésus et Marie, absolument rien. Il n'y a absolument rien en commun entre Jésus et Marie. Enfin, le Seigneur utilise cette expression-là à l'égard de Marie pour souligner, et là je vais utiliser le mot abîme, un abîme qui est infranchissable, un trou que tu ne peux pas franchir, qui existe entre la divinité de Jésus et l'humanité de sa mère. Jésus est Seigneur. C'est notre Sauveur, sans tâche, sans péché, tandis que Marie, c'est une personne humaine, déchue, comme chacun de nous ici, et elle avait besoin d'un Sauveur, comme elle le dit dans Luc, je crois, où il y a le cantique de Marie. Donc, au verset 5, Marie a compris le sens de ces paroles-là. Et elle demande aux serviteurs de faire tout ce qu'il leur dira. Autrement dit, pas ma volonté, sa volonté. Ça, c'est une chose qu'on doit apprendre aussi dans notre vie. Je suis en train de faire un cours, puis on parle de la prière, puis si dur de dire « Que ta volonté soit faite. » Oh, on peut le répéter quand lorsqu'on dit là, notre Père. Mais quand on prie, là, c'est notre volonté qu'on veut qu'il se fasse. Puis là, d'une manière détachée, on va dire « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Wow! Je ne sais pas. Mais il faut qu'on ait cette foi-là, cette confiance-là en Dieu. Que sa volonté va être la meilleure chose pour nous. Et Marie savait ça. Faites ce qu'il vous dira. Parce que ce qu'il va vous dire de faire, ça va être la meilleure chose pour vous. Et là, encore là, je reviens à ce qu'elle dit. Elle ne demande pas au serviteur de lui obéir à elle, d'obéir à elle. Mais elle veut que ces gens-là obéissent à ce que le Seigneur Jésus va leur demander. Elle les dirige vers le Seigneur Jésus. C'est notre devoir, nous les chrétiens, dans la mission que le Seigneur nous a donnée, de diriger les gens vers le Seigneur. On l'a vu. Philippe, Nathanaël, André, Philippe, en tout cas, c'est ça. Ça fait partie de la grande mission. Et là, elle leur dit, c'est à lui qu'il faut vous obéissiez. Maintenant, les instructions, ce que le Seigneur Jésus va demander, il y en a plusieurs de ces instructions-là qui nous sont écrites dans le Nouveau Testament. Quand on lit la parole de Dieu, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, c'est plein d'instructions. Puis des fois, bien, pourquoi qu'on n'obéit pas? Bien, c'est parce qu'on est des pécheurs. Des pécheurs pardonnés, mais des pécheurs. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on doit se rappeler des paroles que Marie a dit. Faisons ce qu'il nous dira de faire. Faisons ce que Jésus va nous dire de faire. Et ça, c'est de l'obéissance si on le fait. Et là, on peut voir ici que cette parole-là démontre l'obéissance que l'on doit au Seigneur. On se doit de faire ce qu'il nous dit dans sa parole. Ce n'est pas toujours facile. Mais, avec l'aide de l'Esprit Saint, le Seigneur nous donne tout ce qu'on a de besoin pour résister au mal. Maintenant, au verset 6, à l'endroit où avait lieu ce mariage, à Cana, puis dans cette place-là, où il y avait lieu le mariage, il y avait 6 grands vases de pierre. Puis il y avait, ces vases-là contenaient entre 80 et 120 litres d'eau. Et l'eau était utilisée par les Juifs pour des ablutions, okay? Des rituels. Par exemple, si un Juif touchait un mort, là, il était impur. Il était considéré comme étant impur. Alors, il fallait qu'il soit lavé. Donc, ça prenait beaucoup d'eau. Parce que, pour toutes sortes de raisons, souvent impures, ou que le Juif était déclaré impur, il fallait qu'il se fasse laver. Il fallait qu'il se trempe dans ces eaux-là. Donc, c'est pour ça que c'est des gros jars, 80 à 120 litres d'eau. Il y en a 6. Et là, Jésus va donner l'ordre au verset 7 aux serviteurs, remplissez d'eau ces vases. Mettez de l'eau dedans. Faites-le, c'est bon. Et là, les serviteurs obéissent aussitôt. Et on remarque aussi que le Seigneur se servait, ça, il faut toujours se rappeler de ça, le Seigneur se servait toujours de moyens qui existent. Pas de choses surnaturelles, pas de bâton de magie, quoi que ce soit. Non, il se servait de moyens existants pour accomplir ces miracles-là. Et là, il y a des gens, remplissez les dos. Et il a permis aux hommes de lui fournir les bases, puis de les remplir d'eau, comme j'ai dit tantôt. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est il va faire quelque chose qu'aucun homme, aucune femme n'a jamais pu faire. Il change l'eau en vin. Et là, les serviteurs, remarquez bien, pas les disciples. Les disciples étaient sur le bord de Jésus. Les serviteurs ne connaissaient pas. Donc, les serviteurs ont rempli ces jarres d'eau-là. Et de cette manière-là, c'est qu'il y avait le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il évite toute possibilité d'être accusé de tricherie. Ça a été ses disciples, mais là, ils ont joint tour, ils ont mis du... Non! Marquez bien ce qu'ils ont fait à Jésus lors de sa résurrection. Ils ont blâmé ça à ses disciples. Ils ont dit, ils l'ont sorti de la tombe. Donc, il n'y a pas de compromis ici. Ce sont ces serviteurs-là qui remplissent les jarres d'eau. Et là, en plus de ça, des petits détails qui sont écrits dans le verset, c'est les vases ont été remplis jusqu'au bord. Pour pas que personne dise que du vin avait été ajouté à l'eau. Ben, comme du Kool-Aid, tu sais. Chose en poudre, là, pour mettre dedans, là. Mais c'est juste pour vous dire que tous les détails, toutes les choses sont bien vérifiées pour ne pas permettre de doute. Et là, au verset 8, le miracle a lieu. Le Seigneur Jésus ordonne aux serviteurs, puisez maintenant et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Le miracle a eu lieu et il s'est produit d'une façon instantanée. L'eau ne s'est pas transformée en vin durant une période de temps, mais immédiatement. C'était de l'eau, c'est du vin maintenant. Et je vais lire ce que j'ai recueilli dans des notes. Un petit poème, juste une phrase, là. Il y a quelqu'un qui a exprimé ça avec beaucoup de poésie. Les eaux inconscientes virent leur Dieu et rougirent. C'est bien dit, hein? Les eaux inconscientes virent leur Dieu et rougirent. Et là, au verset 9, l'ordonnateur du repas, celui qui était chargé de dresser les tables puis d'arranger les différents mets, quand il a goûté ce vin-là, c'est-à-dire l'eau changée en vin, et là, il prend conscience qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui vient de se produire. Et il était complètement ignorant de d'où venait ce vin-là. Mais il a reconnu néanmoins qu'il s'agissait d'un cru d'excellente qualité. C'est le Seigneur qui vient de faire ce vin-là, qui vient de créer ce vin-là. Imaginez-vous, je ne sais pas s'il y a des amateurs de vin ici, là, mais il a dû être bon. Là, il s'en va voir, c'est-à-dire qu'il fait appeler l'époux. Et, en parenthèse ici, j'ajoute, quelle devrait être aujourd'hui l'attitude des chrétiens envers le vin? Maintenant, je veux que vous preniez le vin, là, comme étant la meilleure chose que Jésus a pu faire. quand j'ai lu ça, je me suis dit, on est chialeux. On critique surtout. On n'est jamais satisfait. C'est quoi mon attitude? Je me dis chrétien, puis je chiale comme tout. Pourtant, je dis, Seigneur veut ce qu'il y a de mieux pour moi. Le Jésus vient de faire ce qu'il y a de meilleur. Jésus nous a placés dans une situation par sa grâce, la meilleure possible. Même si on vit dans le monde, là, on est à la meilleure place qu'on devrait être. Pourquoi? Parce que si on persévère, parce que le Seigneur a dit, personne ne les ravira de ma main, on va se rendre jusqu'au bout, puis après ça, ça va être la vie éternelle. C'est ça que le Seigneur a fait pour nous. C'est ça le vin. Il a produit ce qu'il y avait de meilleur pour la circonstance. Vous savez, je reviens un peu à ce que je disais tantôt par rapport à l'utilisation du vin. On lit dans 1 Timothée 5, 23, Paul dit à Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Je ne suis pas docteur. Si je serais à Gatineau, je demanderais à Dr. Johnson c'est pourquoi que le vin était bon pour l'estomac. Mais en tout cas, il faut croire qu'il y avait une raison médicale de boire un peu de vin. Mais ça arrive que le vin, il prescrit pour ces choses-là, qui est en harmonie avec l'enseignement de l'Ancien Testament. Maintenant, en ce qui concerne l'usage qu'on en fait à la table, il est nécessaire que le chrétien se comporte avec prudence en toute situation et dans toutes les cultures du monde, peu importe. Les Italiens boivent du vin, les Français boivent du vin, mais je pense que les jeunes en boivent. Il y a des cultures qui sont différentes. Nous, c'est différent, en tout cas. Un enfant de Dieu se doit de rechercher avant tout la gloire de Dieu et non la satisfaction égoïste, j'appelle ça, de ses désirs personnels. Et ça, ça peut être pris de toute manière. Hein? Même si on est jeune, même si on est plus vieux, on a tous, des fois, le désir de satisfaire notre chair, nos désirs personnels. Maintenant, sans rejeter l'usage du vin, l'usage des bonnes choses que Dieu a créées, que Dieu nous a données, un enfant de Dieu devrait se souvenir des avertissements que la parole de Dieu nous donne concernant l'ivresse en particulier. Je vais vous donner 4 passages, je ne les lirai pas tous, là, mais il y a 4 passages que prenez-les en note, puis vous pourrez aller voir plus tard cette semaine. Romains 13, 13. Galates 5, 21. Hein? Ça, c'est juste avant le fruit de l'esprit. Et Seigneur, je pense qu'il est bon de lire celui-là. Galates 5, 21. L'envie, l'ivrognerie, les acceptables, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et l'autre que vous allez prendre en note, c'est 1 Pierre, chapitre 4, verset 3. Et le chrétien est aussi encouragé à faire attention à tout manque de modération en général. Et 1 Corinthiens 6, 12 nous dit que, c'est drôle dans ce passage-là, Paul dit, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il n'y a rien qui va avoir le contrôle sur moi. Enfin, nous qui sommes les saints du Nouveau Testament, on devrait se garder de tout comportement qui puisse pousser quelqu'un d'autre à trébucher. Hein? Toi, tu prends un verre de vin, puis tu invites quelqu'un qui ne peut pas boire de vin pour toutes sortes de raisons. Puis là, tu es là, la grosse bouteille s'arrête. Oh, let's go. On boit du vin. On boit du vin. Puis l'autre personne qui lutte contre ça, bien, elle est là, puis elle dit, ça me tente, ça me tente, ça me tente. Savez-vous ce qu'on devient dans ce temps-là? Une pierre d'achoppement. Romains 14, 21 dit ceci. Il est bien de ne pas manger de viande. Il y a toute une explication à cela. Parce qu'il y en a qui ne voulaient pas manger dans ce temps-là les viandes sacrifiées aux idoles. Mais Paul dit, cette viande-là, là, qui est sacrifiée à des faux dieux, c'est de la viande. Elle est bonne. Pourquoi l'acheter? Mais pour d'autres, non. C'était de la viande sacrifiée aux idoles. Donc, moi qui est chrétien, j'invite un autre chrétien qui est peut-être un peu plus faible dans sa connaissance ou quoi que ce soit, ou peu importe. Puis là, j'ai acheté un beau paquet de viande, là, qui a été utilisé pour offrir en sacrifice aux idoles. Puis j'achète ça. Puis là, je commence à préparer ça sur le barbecue, puis la personne qui vient me visiter cette journée-là, elle, pour elle, c'est... Non, je ne touche pas ça. Une personne qui croit vraiment ne pas pouvoir manger de porc. C'est un faux enseignement, ça. Mais quand même, si cette personne-là a résolu de ne pas manger de porc, ou bien non, si cette personne-là a résolu de devenir ce qu'on appelle « veggie » ou « vegan », bien, respectons son choix. Puis quand ils viennent chez si on les invite, bien, faisons pas par exprès. Surtout que si on veut témoigner à ces gens-là de la foi. Et Romains dit, je vais continuer dans Romains 14, 21, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstiner de ce que peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Si on sait quelque chose, surtout là, un frère ou une personne à qui on veut témoigner, là, soyons sensible. Maintenant, ils ne vont pas le pécher, par contre. Si la personne veut venir chez vous, puis elle amène sa caisse de bière, puis elle va avoir le complet. J'ai rien contre le boire de la bière. Mais je m'en livrerai pas. Là, je ne vais pas vous donner un cours sur comment boire, là, l'éthique là-dessus. Je vais terminer. Verset 10. L'ordonnateur du repas attire l'attention sur la différence qui existait entre la manière d'agir du Seigneur et celle des hommes. La coutume dans ce temps-là, lors d'un mariage, on servait d'abord le bon vin. Puis, lorsque les hommes commençaient à être un peu chaudasses, on leur servait le moins bon vin. Et c'était comme ça, c'était la coutume. Mais pendant ce mariage-là, l'ordonnateur, il pense, puis il dit, « Hey, c'est le contraire ici. on a servi du vin au début, mais là, c'est le meilleur des vins qu'on nous sert. Et ça a une situation spirituelle. En général, le monde offre le meilleur au début. Quand je m'adresse à des jeunes, je leur dis, ça paraît beau dehors. C'est extraordinaire dehors. Mais ça ne dure pas longtemps. En effet, ce monde-là va nous réserver des distractions très attirantes, et surtout pour les jeunes, mais ce n'est pas le cas. Et après que tu as gaspillé ta vie dans des plaisirs qui sont vains, qui sont inutiles, là, le monde n'a plus que des déchets à t'offrir. Et là, on s'aperçoit de ça souvent après quelques années dans notre vie. Combien de temps qu'on a perdu sans le Seigneur. On est peut-être ici une première génération de chrétiens. Et on a eu ce qu'on appelle un vécu avant. Puis là, on se dit, waouh, combien d'années on a perdu. Ah, c'est de l'expérience. Mais des fois, il y a des expériences que j'ai vécues que je n'aurais même pas vécues. Et là, voyez le contraste. La vie chrétienne, c'est exactement le contraire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Ça veut pas dire... Non, non. La vie chrétienne, si tu es un chrétien consacré, qui parle avec le Seigneur, qui se laisse parler par le Seigneur, par la parole de Dieu, même s'il y a des choses mauvaises qui arrivent dans ta vie spirituelle s'améliore sans cesse. Et c'est ça qui nous permet de passer au travers avec des fois de la joie, les épreuves de la vie. Donc, Christ garde le meilleur pour nous. Le meilleur vin pour la fin. Ensuite, d'abord, c'est le jeûne, puis après ça, c'est le festin. Donc, ce passage-là des Écritures comporte une application qui est spécifique aussi à la nation juive. Hein? Aucune joie, ça m'a frappé, aucune joie véritable n'existait ou n'existe même encore dans le judaïsme à cette époque-là, puis même aujourd'hui. Les Israélites accomplissent une suite de cérémonies, de rituels ennuyeux. Et on fait ça depuis longtemps. Mais leur vie devient morne, plate, parce qu'ils ignorent la joie qui vient d'un Dieu sauveur comme Jésus-Christ. Et par ce miracle-là, frères et sœurs, le Seigneur Jésus enseignait au peuple juif que s'ils mettaient leur foi en lui, Jésus, bien, ils transformeraient leur existence monotone, plate, en une vie remplie de joie. L'eau des cérémonies et des rites juifs pourrait devenir pour eux le vin de la joyeuse réalité de la vie en Christ. Et c'est ça. Et on doit le comprendre ainsi, frères et sœurs. Dieu peut remplir notre vie d'une joie immense. Verset 11. L'eau changée en vin fut le premier miracle de Jésus-Christ. Les miracles de caractère insensé, presque blasphématoire, que Jésus est censé avoir accompli dans son enfance, selon les pseudo-évangiles, soit celui de Pierre. Ça, c'est faux. L'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, c'est faux. Jésus n'a accompli aucun miracle. Il y a un film qui a passé dernièrement là, sur la vie de Jésus comme enfant. Là. Si vous voulez le regarder, c'est correct, mais c'est de la garbage. Excusez-moi, c'est beau, petit Jésus, il fait des miracles. Mais non. C'est faux. Saint-Esprit a prévu ce genre d'invention-là. Et par ces quelques mots additionnels qu'on ajoute à l'Évangile, qu'on ajoute des fois dans des films, ou qu'on ajoute peu importe où, le Saint-Esprit nous protège. Nous protège. Il nous garde ancrés dans sa foi. Dans la foi. Et je conclue en disant ceci. Waouh, je suis allé un peu loin ce matin. Changer l'eau en vin constituait littéralement un signe, c'est-à-dire un miracle comportant une signification. Un signe, c'est un acte surnaturel, porteur d'un sens spirituel. Donc, les miracles de Jésus étaient également des destinées à nous montrer que lui-même était le Christ, le Fils de Dieu. Et par l'accomplissement de ce signe-là, il manifeste sa gloire, il révèle aux hommes qu'il était réellement Dieu manifesté en chair. Ses disciples ont lu au verset 11 qu'ils ont cru encore plus en lui. Leur foi a augmenté ou est devenue plus solide. Mais maintenant, leur foi est fortifiée, comme je viens de dire. Et ils faisaient totalement confiance au Seigneur. Et je vais terminer juste encore une dernière remarque d'un autre commentateur qui dit ceci. Le premier miracle de Moïse fut de transformer l'eau en sang et comportait un caractère destructeur. Vous vous souvenez, lorsqu'il arrive devant le Pharaon, change l'eau en sang. En revanche, le premier miracle de Christ fut de transformer l'eau en vin et comportait un caractère d'apaisement et de consolation. Que Dieu vous bénisse. Amen.